Santé.
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 C'est bon pour la 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 santé. Bonjour, bonjour! Comment ça va? Bien, je le souhaite. Marianne Paquette avec vous, avec grand plaisir pour les 60 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, ce qui s'en vient, on parle de bénévolat. Hein? C'est la semaine de l'action bénévole et ce jusqu'au 29 avril. Est-ce que le bénévolat peut être une source de bien-être et de longévité? Eh bien, c'est la question que l'on pose à André Ledoux en deuxième partie. Lui, il détient un certificat en gérontologie. Il est également auteur du livre Vivez mieux, vivez plus vieux, conférencier et également bénévole dans plusieurs établissements de santé. Je pense qu'il est à même de nous dire si le bénévolat peut être gage de longévité. Également, Paul Wright, lui, entraîneur privé au Pro Gym, également collaborateur de l'organisme Adama, on pourra découvrir ce que fait Adama, nous parle de comment développer des programmes adaptés d'entraînement pour des personnes qui vivent en situation de handicap. Avec Marc Corbière, lui, chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, également professeur à l'Université du Québec à Montréal. On parle de santé mentale au travail. Comment on prépare un employé à revenir dans son milieu de travail après un épisode de dépression? Comment aussi on prépare les patrons à recevoir cet employé-là? Et tout ça en lien avec le lancement de cette chaire de recherche en santé mentale au travail qui est dirigée par Marc Corbière. Et dans quelques instants, c'est notre belle Marie Lalande, chroniqueuse en littératie familiale, qui nous parle des devoirs. Un sujet assez polarisé. Certains les valorisent, d'autres les détestent. Quels sont les réels impacts sur la réussite au primaire? Marie sera là pour nous en dire davantage. Tout ça, mais avant, la revue de presse de Christiane Campagna. Bonjour Christiane.
Bonjour.
Merci d'être là. On parle de ce texte écrit par le docteur Alain Vadeboncœur. Petite anecdote avant. Alain était ici à notre station il y a de ça quelques années et je me dirigeais vers la clinique. J'avais mal aux oreilles et il me dit non, t'as pas besoin d'antibiotiques là. Je suis sûre que c'est pas une bactérie, c'est un virus. Et il voulait pas que j'y aille ou en fait pas vraiment, mais il soulignait le fait que c'était peut-être pas nécessairement nécessaire, là, c'est une redite un peu. Et c'est un peu en lien, le texte que vous allez nous lire.
Oui, c'est un assez long texte, donc je vous parlerai de certains extraits. Il s'agit d'un texte de blog, et souvent, ils sont très longs parce qu'on a moins de limites de longueur que quand c'est publié dans les pages papier. Alors, tu sais, on pense parfois que réaliser plus de tests et faire plus de traitements, c'est toujours bon pour le patient, et que c'est seulement pour des restrictions budgétaires que nos dirigeants souhaitent en limiter l'accès. Mais selon Alain Vadeboncœur, c'est faux. L'effet est bien plus large et peut affecter négativement la santé des gens. En réalité, plus de tests et surtout plus de traitements n'améliorent pas toujours la santé et ça peut même l'aggraver. On n'a qu'à penser aux risques liés à l'exposition aux rayons X, qui augmente le risque de tumeur, ou à la prise inappropriée d'antibiotiques, dont il a déjà parlé, il y a un hyperlien vers un autre texte spécifiquement sur ce sujet-là. Ça peut causer des allergies graves et des complications comme le C difficile ou augmenter la résistance. Il donne l'exemple d'un traumatisme crânien, notamment, que vous présentez à l'urgence, le médecin a peut-être réalisé un scan cérébral pour déceler des complications, essentiellement des segments intracrâniens. Or, dans le tiers des cas, pour les patients, ce scan est inutile et à réaliser vous expose à des radiations, sans parler des coûts, mm-hmm. alors qu'il n'était pas nécessaire, qu'il y a d'autres processus, en fait, pour savoir de quel niveau de gravité on parle. Et donc, en gros, le texte remet en question l'idée où on se dit, ben tiens, un peu plus, ça peut pas faire de mal, mais c'est pas toujours vrai. J'imagine qu'il doit avoir aussi des répercussions psychologiques aussi. Tous ces tests, je pense que attendre des résultats de tests, ça doit être tellement stressant qu'on finit par se faire du mauvais sang, comme on dit, ouais. À cause de tous ces tests-là. Alors, c'était sur le blog de l'actualité le 7 avril dernier.
Est-ce que votre médecin choisit vos soins avec soin?
Oui, c'était le titre.
Maintenant, on cite qui suit de près l'évolution de la tique au Québec, notamment en lien avec la maladie de Lyme, qui, on le sait, prend beaucoup de place, notamment en Montérégie, et c'est la saison estivale qui s'en vient, il faut y penser.
Et le fait que ça monte toujours plus haut est lié au réchauffement climatique, on ne le dit jamais assez. Alors, c'est un texte de Claude Plante dans la Tribune du 25 avril. Le site web dont il parle s'appelle éthique.ca. etick.ca, qui est un site bilingue consacré à l'identification d'images et au suivi des populations de tiques. Il a été lancé par Jade Savage, professeure de biologie à l'Université Bishop, et le premier du genre à viser les tiques au Québec. Le projet pilote pour 2017 vise principalement les tiques trouvées sur des animaux dans la province de Québec. C'est collaboratif. Hein. Le site web a été créé en réponse aux changements rapides dans l'ère de répartition des diverses espèces de tiques et à l'émergence de la maladie de Lyme. C'est un projet scientifique citoyen qui invite le public à partager au suivi des populations de tiques en soumettant des photos de tiques au site web afin qu'un professionnel puisse les identifier. On peut y trouver des photos de tiques indiquant la date et l'endroit où elle a été observée. Il est mentionné qu'on en a retrouvé à Sherbrooke, à Yearscliff, mon anglais ce matin, et à Kirkland.
Tout ça, c'est au Québec. Ben, Kirkland, oui.
Oui.
Et l'autre endroit que vous avez nommé?
C'est Yearscliff, à Sherbrooke.
OK.
Mais il y a
un
des projets...
dans le sud,
oui,
hein?
Voilà.
Ouais.
Pour l'instant, c'est au Québec, mais le projet est d'étendre, c'est un site .ca, d'étendre ça à toutes les provinces du Canada.
Oui. Donc, on connaît la chasse à différents animaux. Bientôt, la chasse aux tiques sera lancée. Maintenant, dernier texte. Parfois, ces clowns qui sont leurs seuls visiteurs. On parle de clowns en visite dans les CHSLD.
Oui. Il y a 8 ans, le gouvernement provincial avait créé une énorme controverse en accordant une subvention de 293 000 $ à des clowns thérapeutiques pour divertir les aînés en CHSLD. Récemment, le Journal de Montréal a passé une journée avec 2 clowns de cet organisme qui est encore marqué par l'histoire au point où ils n'ont plus jamais demandé de subvention pour les services qu'ils offrent. On nous donne l'exemple d'un patient. Bernard Hull ne reçoit que très peu de visites depuis qu'il a déménagé en centre d'hébergement. Certaines semaines, sa fille vient le voir, jamais son fils, de qui il s'est éloigné. Heureusement, il peut toujours compter sur Alfred et Joséphine, 2 étranges visiteurs arborant le nez de clown. Ces 2 artistes chantent du Johnny Cash avec l'homme de 72 ans. « J'ai joué cette chanson à la guitare quand j'étais jeune », lance M. Hull en terminant le refrain de « Ring of Fire ». Atteint de la SLA, le septuagénaire ne peut plus marcher et éprouve des difficultés d'élocution, mais il parvient à chanter toutes les paroles de la chanson, un immense sourire accroché au visage. Un autre exemple, ils vont visiter une dame, je l'ai mis un peu plus loin, une dame confuse tient debout devant sa marchette, répétait de façon mécanique qu'elle voulait fumer une cigarette. Au fond du couloir, Joséphine et Alfred ont alors judicieusement entamé le plus beau tango du monde, une chanson des années 30 reprise par Tino Rossi dans les années 50. La dame s'est aussitôt mise à chanter les paroles exactes de la chanson sans se tromper une seule fois. Son regard s'est éteint, sitôt la chanson terminée, elle a repris de plus belle son monologue et son envie de fumer. Mm-hmm. Les 2 artistes font partie de la fondation Jovia, autrement connue sous le nom de Dr. Clown. Après que leur travail eut été critiqué dans les médias, la Fondation a créé le programme La Belle Visite pour aînés en 2011. Et habillés en costume d'époque, les artistes jouent les personnages d'une grande famille, les La Belle, au sein de laquelle on trouve Alfred et Joséphine. Inspirés par la thérapie par réminiscence, les clowns font appel aux souvenirs des gens en utilisant divers référents comme la musique, la chanson, les vêtements, etc.
Jovia, c'est également les clowns. Ce sont également les clowns là, que l'on retrouve dans les hôpitaux pédiatriques, le CHU Sainte-Justine notamment. Ils font un travail que l'on doit souligner, qui est extraordinaire. On a pu voir, d'ailleurs, dans l'émission, la nouvelle émission animée par Véronique Cloutier, un hommage au travail de ces clowns-là. Et je trouve que c'était une façon de sensibiliser aussi le grand public à une façon de traiter ou de donner des soins à des petits patients ou à des patients plus âgés d'une façon différente.
Et ils disent dans l'article que suite à la controverse, ils ont quand même remis en question leur façon de faire, justement, en réalisant que l'intervention n'avait pas à être la même qu'auprès des enfants. Parce que quand ils allaient seulement en tant que clown, ils finissaient par se faire poser des questions sur la maladie, tout ça. Alors, c'est là qu'ils se sont tournés vers la thérapie, vers la réminiscence, et qu'ils ont mis beaucoup de volets musicaux à leur approche.
Christiane Campagna, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous ce midi. Merci beaucoup. Marie Lalande, bonjour.
Bonjour.
Chroniqueuse littératie familiale. Et on parle aujourd'hui d'un sujet qui divise un petit peu les devoirs. Certains les préconisent peut-être davantage, et vous saurez me corriger au cours de cette discussion, Marie, les enseignants qui trouvent peut-être valorisant de voir les progrès de leurs jeunes élèves par les devoirs, et les parents pour qui parfois c'est une charge de travail supplémentaire avec tous les autres tâches là, qui s'ajoutent dans un univers familial.
Oui, leur passage, la sauce à spaghetti et tout ce qu'on doit préparer pour le lendemain. Alors, c'est un sujet, vous l'avez dit, polarisant, controversé. Puis l'idée, c'est que tout le monde a une idée sur ce sujet-là, parce que tout le monde est passé par l'école. Tout le monde a des croyances à propos de ça. Selon le Conseil supérieur de l'éducation, 94 % des enseignants donnent encore et presque toujours des devoirs. 80 % des parents pensent que les devoirs sont nécessaires. Mm-hmm. C'est quand même beaucoup. Les enseignants en donnent parce que c'est comme ça, parce que c'est la tradition, on a toujours fait comme ça. Plusieurs parents croient aussi qu'un bon enseignant, ça donne des devoirs. Ouais. Alors, on est dans les croyances ici. Et paradoxalement, on l'a dit tantôt, c'est un fardeau pour plusieurs, un problème dans l'organisation familiale et une source de tension, voire même de conflit dans les chaumières.
Oui. C'est peut-être aussi parce que ce problème-là est amené parce qu'on n'a jamais été amené à penser différemment.
Oui, puis on ne réfléchit pas sur la question. On continue à reproduire ces schèmes-là. C'est un sujet chaud ailleurs dans le monde. Saviez-vous ça que... Depuis 1956, en France, il y a un règlement dans le système d'éducation nationale qui vise l'interdiction des devoirs à la maison ou à l'école primaire.
Et ça, c'est en Europe, je pense?
En France. Et c'est assez peu connu et pas tellement respecté, même en France. En Australie, aux États-Unis, en Finlande, donner des devoirs, c'est une pratique qui est décriée, qu'on a même abandonnée au profit d'activités plus ludiques, culturelles, sportives ou des périodes de lecture en famille. En France, je reviens à la France, Philippe Mérieux, qui est un spécialiste de l'éducation, lui, il plaide le fait que les devoirs contribuent à accroître et à creuser les inégalités sociales. En milieu plus défavorisé ou allophone, les enfants sont souvent laissés à eux-mêmes, ils ne font pas les devoirs, ils reviennent à l'école, ils sont pointés du doigt.
Punis parfois.
Punis, tout à fait. Et là, etc., la roue tourne et c'est un cercle vicieux. Alors, est-ce que ça a un impact sur la réussite scolaire? Il y a un chercheur qui s'appelle John Hattie qui a voulu savoir quels sont les facteurs qui ont un impact significatif sur cette réussite scolaire. Il a analysé beaucoup de méta-analyses pour cibler les facteurs qui ressortent comme ayant un effet significatif et ceux qui ont peu d'effet sur la réussite scolaire. Ces travaux ont notamment permis d'observer que les devoirs ont peu d'impact sur la réussite des jeunes du primaire. Ils en ont un peu plus au secondaire. Au Québec, on a fait des travaux semblables et on a conclu que les résultats de recherche sont souvent contradictoires. Les chercheurs divergent quant aux conclusions sur l'utilité des devoirs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ici aussi, les conclusions vont dans le sens que l'effet bénéfique des devoirs, c'est négligeable pour les élèves du primaire. Alors, dans ce contexte-là, le Conseil de l'éducation a publié un avis sur la question et invite les milieux scolaires, les écoles, les commissions scolaires à réfléchir à la question et leur donne des outils de réflexion, des questions à se poser. Puis moi, je considère qu'on devrait impliquer les parents dans cette réflexion-là. Notamment, dans ce document-là, on mentionne les changements de société qui affectent les familles, les rythmes de nos vies qui ont changé. Il y a plusieurs écoles, plusieurs commissions scolaires qui ont fait cette réflexion, qui ont amorcé un virage et qui ont décidé de ne plus donner de devoirs à faire à la maison aux enfants du primaire. Par contre, dans ces milieux-là, il y a quand même des lectures à faire à la maison. Les enfants ont des mots de vocabulaire à étudier, des tables de multiplication à travailler.
On est plus dans des leçons. Est-ce que c'est ça, Marie?
Ben, en fait, dans les milieux où on a décidé qu'il n'y avait plus de devoirs à la maison, même les travaux comme les leçons, l'épellation, tout ce qui touche la mémorisation, même ça, ça se fait à l'école, pas à la maison du tout. La lecture se fait à la maison. Il y a aussi des écoles où on demande quand même d'apprendre des leçons, de l'épellation, je le disais tantôt, les multiplications, et de lire après l'école. Mais on met de côté les devoirs de type cahier d'exercice.
OK. Quelque chose que l'on doit remettre
les
à l'enseignant.
Les travaux écrits. Oui. Partout où il y a de l'écriture, on met ça de côté.
Maintenant, Marie, le temps file. Oui. Parfois, notre enfant revient quand même avec des devoirs.
Qu'est-ce
vous
qu'on
dites,
fait?
Tout à l'heure, 94 % des enseignants donnent encore
oui,
des devoirs.
Oui, parce qu'ils y croient. Ils croient, c'est que ces enseignants-là, que ça consolide les acquis, que ça permet de développer des méthodes de travail. Il y a un auteur au Québec, un professeur de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, Thierry Carcenti, qui a écrit un ouvrage là-dessus, « Les devoirs, ce que dit la recherche, les stratégies gagnantes, l'impact des technologies. »
Et concrètement, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, pour le parent, le pauvre parent démuni qui, justement, vous le disiez tout à l'heure, entre sa sauce à spaghetti et son passage, doit aider son enfant sans trop de conflits.
Oui. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est que, bon, quand on arrive, on essaie de prendre une pause, changer la donne, prendre une collation, aller jouer dehors. Avec les plus petits, les élèves de première année, par exemple, on ne s'attend pas à ce qu'ils travaillent seuls. Ils sont en première année, ils commencent. On peut s'asseoir avec eux à la table de cuisine, on regarde ce qu'il y a à faire. On décide ensemble dans quel ordre on va faire les travaux. Dans tous les cas, on s'organise pour faire de la lecture quelque chose où on a du plaisir. Ouais. On lit à l'enfant. Il peut faire la lecture quand il est prêt, quand il suggère lui-même. On peut travailler avec l'enfant, mais pas faire le travail à sa place. Les profs ne sont pas du pain, ils se rendent très bien compte quand c'est les parents qui font les devoirs. Si l'enfant ne comprend pas, si la tension monte, on arrête, puis on en parle avec l'enseignant. On a un enfant qui oublie. Il oublie ses choses à l'école, il oublie ce qu'il y a à faire. Au début de l'année, on s'organise pour prendre les coordonnées d'un ou deux amis de l'enfant.
Ah, d'autres
puis
parents.
Puis on communique avec les parents, c'est pratique. Plus l'enfant grandit graduellement, on développe des façons de faire pour qu'il soit de plus en plus autonome. Par exemple, on lui laisse du temps pour étudier, pour travailler seul, puis ensuite on vérifie avec lui le travail qui a été fait. On essaie de limiter les distractions ambiantes. La radio,
la télé.
Ben oui. Exactement. Les jeux des plus petits aussi.
Le
parce
petit
que,
frère oui, qui le tourne frère. Autour de la table.
Tout à fait. Dans tous les cas, on encourage, on fait preuve de patience, d'empathie, en autant que faire se peut. Si c'est trop long, si ça devient une source de conflit, on en parle avec l'enseignant. Ouais. Ce qu'on dit, c'est que les devoirs à la maison, en première, ça ne devrait pas durer plus que 10 à 15 minutes. Sixième, 30 minutes max.
Vous savez, Marie, j'ai l'impression que le parent, parfois, dans l'accompagnement des devoirs auprès de son enfant, est confronté à lui-même, c'est-à-dire aux difficultés qu'il
tout
a vécues au primaire,
aux
facilités. Et il voit que l'enfant a des difficultés, ça le confronte. Mais en même temps, le parent n'a pas nécessairement les qualifications pour accompagner son enfant jusqu'au bout dans les devoirs. Ça revient un peu aux parents. Donc, je trouve ça intéressant, en l'enseignant, je veux dire. Donc, ça devient intéressant.
De là, la réflexion qui est suggérée.
Et d'en parler à l'enseignant. Et ça se fait dès la première année du primaire.
Tout à fait. Même, il y en a qui en donnent en maternelle. Des ressources à l'oprof, dans tous les cas. Et pour toutes les autres, parce que j'en avais listé quelques-unes, on
notre
les met
site.
Sur le site.
Ouais. Marie Lalonde, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conseillère pédagogique de français maintenant à la retraite, au primaire, et qu'une fois par mois, vous nous offrez cette chronique littératie familiale. Merci beaucoup.
Plaisir.
On apprenait tout récemment, en fait, au début du mois, le lancement de cette nouvelle chaire de recherche en santé mentale et travail. Mmh. C'est une première au Québec et j'ai devant moi son directeur, Marc Corbière. Bonjour.
Bonjour.
C'était assez essentiel de mettre de l'avant ce genre de travail parce que les statistiques sont assez révélatrices, Marc Corbière. En 2011, 21,4 % de la population active était aux prises avec un trouble de santé mentale. Au moins 30 % des absences au travail sont dues à des problèmes de santé mentale. Et dernière statistique, selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression deviendra en 2020 la première cause d'invalidité.
Oui.
Il fallait s'y pencher et ce, oui, rapidement.
Eh oui, tout à fait. Ben merci pour l'invitation. C'est une belle occasion de parler de notre chaire de recherche. Notre objectif principal, en fait, c'est d'aider les personnes avec un trouble mental à retourner, à reprendre leur activité professionnelle, soit dans la même entreprise, soit dans une nouvelle entreprise. Et bien sûr, d'offrir des outils aux acteurs du retour au travail. Donc, ouais, ces acteurs sont dans différents systèmes, le système de l'entreprise, de l'assurance, de la santé,
bien
et bien sûr la personne directement concernée. Alors, nous, on s'intéresse en fait à deux trajectoires professionnelles, des personnes avec un trouble mental courant, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire trouble mental courant, ce sont des personnes en général qui ont fait une dépression, un burn-out, un épuisement professionnel, un trouble anxieux, et qui, en fait, sont en absence maladie. Après, en fait, ils étaient au travail, ils développent ce genre de trouble mental courant. Ils sont en absence maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de 30 à 50 de toutes les absences maladies confondues au travail sont dues à un trouble mental. Donc, c'est important.
Ouais.
La personne est en absence maladie. Son désir, en général, c'est de retourner à son poste de travail d'avant la maladie, c'est-à-dire dans la même entreprise. Et donc, après une certaine période de repos, de rétablissement, de récupération, en fait, cette personne-là envisage de s'inscrire dans un retour au travail. Ce qu'on sait, c'est qu'après un an, il y a encore un gros pourcentage de personnes, autour de 30%, qui sont toujours en absence maladie. Donc, il est important de s'intéresser à cette durée d'absence, pourquoi ces personnes-là ne retournent pas à leur poste de travail. Et pour les personnes qui reviennent au travail, et en général, notamment pour une personne qui fait une dépression, en général, va faire une seconde dépression pour 50%. Donc,
oui,
on parle de retour, mais aussi de maintien en emploi.
Voilà, que le retour, la réinsertion dans le milieu de travail ne soit pas un échec.
C'est ça.
Et ça, comme vous le disiez, ça fait appel à plusieurs acteurs
c'est
du
ça.
Milieu de travail.
C'est ça, oui.
Et aussi à parfois encore changer notre vision. Il y a encore de la stigmatisation autour de la santé mentale en milieu de travail.
Oui, oui. Oui, en effet. La stigmatisation, elle existe toujours, malgré qu'il y a quand même une plus grande tolérance, en fait, auprès des personnes avec une dépression. Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est que les personnes qui sont éloignées du marché du travail pour une plus longue période, hein, on parle d'un an, deux ans, et qui présentent un trouble mental plus sévère, vivent encore plus de stigmatisation parce qu'elles tentent de se réinsérer sur le marché du travail. Nous, on appelle davantage ces personnes avec un trouble mental plus sévère, comme schizophrénie, dépression majeure sévère, trouble bipolaire. Et 80% des personnes ont de la difficulté à se réinsérer sur le marché du travail, alors que la plupart le souhaitent.
Ouais.
Bon, il existe des programmes pour les aider, pour aider ces personnes-là. On appelle ça des programmes de soutien à l'emploi, qui sont implémentés, en fait, dans la collectivité ou dans les hôpitaux psychiatriques, pour accompagner ces personnes sur le marché du travail ordinaire. On réalise qu'en fait, grâce à ces programmes, 50% vont retourner. Vont dégoter un emploi sur le marché du travail. Mais là encore, ces personnes-là vont avoir des difficultés à se maintenir. Après 6 mois, 50% vont perdre leur emploi.
Et ça, ça a des coûts sur plein de secteurs.
Certainement.
Et le secteur de l'industrie du travail, le secteur de la santé, sur les familles aussi.
Oui.
Vous aurez au cœur même de cette chaire de recherche, Marc Corbière, des axes de recherche, des axes d'intérêt principaux.
Oui. Juste un autre chiffre, hein, vous mentionnez des chiffres. Par année, 50 milliards de dollars au Canada sont dépensés pour des problèmes de santé mentale, en perte de productivité, en frais médicaux, en réduction de la qualité de vie, parce que aussi, c'est important aussi de parler de ces éléments-là. Ce n'est pas juste les coûts, mais aussi, en fait, le travail, hein, c'est pour notre équipe la pierre angulaire du rétablissement.
Ouais.
Donc, ça, c'est important, en fait, d'être actif, d'avoir cette possibilité de travailler. Alors oui, on a trois axes de recherche. Les trois axes sont les suivants. Le premier, c'est sur les interventions novatrices. Donc, on souhaite développer, implanter, évaluer des interventions novatrices en santé mentale. Le deuxième axe, porte sur des outils de mesure. Donc, dans la même idée, c'est de développer et de valider, évaluer ces outils de mesure. Alors, un outil de mesure, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un questionnaire, par exemple, que les intervenants en santé peuvent utiliser pour aider leurs clients ayant un trouble mental courant ou grave à retourner sur le marché du travail. Et le troisième axe porte sur la divulgation et stigmatisation.
Ouais.
Donc, pour notre équipe, la divulgation est comme un élément charnière, en fait, de la possibilité d'avoir accès à des mesures d'aménagement de travail. Si on ne divulgue pas, si on ne dévoile pas son mal-être, c'est certain que ça va être beaucoup plus difficile d'avoir accès à ces aménagements de travail. Par contre, lorsqu'on divulgue son trouble mental en milieu de travail, bon, on peut devenir l'objet du stigmate social. Donc, on travaille sur ces trois axes en particulier.
Donc, et on comprend que ces trois axes-là pourront aider de façon concrète les différents intervenants. Comment on peut aller chercher, je m'adresse aux employeurs qui nous écoutent et aux employés aussi qui nous écoutent parce qu'un collègue souffre en ce moment ou que soi-même, on vit un épisode où on est moins bien, comment on pourra s'outiller?
Alors, en fait, je rappelle, notre objectif est quand même de s'intéresser au retour.
Oui.
Donc, pas en amont. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est aider les personnes à reprendre leur activité professionnelle. Un exemple concret que les employeurs peuvent bénéficier, c'est on est en train de monter avec notre équipe un programme de retour au travail dans deux secteurs d'activité, privé et public. Donc, on rentre dans l'entreprise et on crée un comité conseil. Donc, c'est une approche participative avec des employeurs, avec des gestionnaires, directeurs ressources humaines, les représentants syndicaux, les collègues de travail, les assureurs aussi, il ne faut pas oublier, les professionnels de santé, lorsqu'il y en a, pour ensemble, en fait, créer une meilleure concertation, meilleure communication de ces acteurs et ainsi faciliter le parcours de retour au travail de ces employés. Alors, un exemple concret de ce programme de retour au travail, on prend plusieurs étapes, on a vu ça dans la recherche, dans la littérature spécialisée. Il y a un certain nombre d'étapes, comme par exemple, il est important de respecter la période de récupération. Ensuite, il faut établir un premier contact avec la personne. Alors, est-ce que c'est le supérieur immédiat qui fait le premier contact? Est-ce que c'est les collègues? Il est certain que s'il y a eu un conflit avec un supérieur immédiat, ça ne va pas être le rôle du supérieur immédiat de reprendre contact avec cet employé. Mais ce qui est important, c'est de faire savoir au travailleur qu'il est attendu et important pour l'organisation. Ouais. Et d'autres étapes comme ça, évaluation du travailleur et de son travail. Alors, je parlais un peu plus tôt d'outils que nous avons développés. Un outil qui s'intitule, son acronyme est ORTEZ, Obstacle, Retour au Travail et Sentiment d'Efficacité. Le clinicien, le professionnel de la santé peut utiliser cet outil-là, l'administre en fait à son client pour évaluer de façon systématique les obstacles qu'il perçoit son retour au travail. Un conflit avec un supérieur immédiat, la peur de faire une rechute par exemple, et demander à ce client
la charge de travail.
La charge de travail,
c'est important. Tout à fait. C'est tout le temps qu'on a, Marc Corbière, mais ce qui est important de souligner, c'est que le travail, c'est un pilier de vie.
Oui.
Ça peut nuire à notre santé, mais ça peut être extrêmement valorisant.
Oui.
C'est important de s'y pencher. Vous êtes le directeur de cette nouvelle chaire de recherche en santé mentale et travail, professeur à l'UQAM aussi, et chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci beaucoup, Marc Corbière.
Merci, merci, au revoir.
On se retrouve après la pause. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. C'est toujours Marianne Paquette avec vous. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure en deuxième partie d'émission. On parlera avec André Ledoux. Il détient un certificat en gérontologie. Il est auteur du livre « Vivez mieux, vivez plus vieux », conférencier bénévole dans plusieurs établissements de santé. Et on parle avec lui du bénévolat. Est-ce que le bénévolat peut être une source de bien-être et de longévité? Il pourra répondre à cette question. Je vous rappelle qu'on est en pleine semaine de l'Action bénévole, et ce jusqu'au 29 avril. Également, tout à l'heure, je discutais avec Marc Corbière et j'ai oublié de vous donner le site web de son organisation. Alors, je vous la dicte maintenant. santémentaltravail.ca, santémentaltravail.ca. Il y a une foule d'informations que vous pourrez trouver sur ce site et bien sûr, on retrouvera ce site sur le nôtre, celui de Vues et Voix. On a du mal à joindre Paul Wright. Alors, petit pont musical et Jean-Sébastien en régie travaille fort pour le retrouver. Alors, comme on a du mal à joindre et M. Paul Wright et M. André Ledoux, j'y vais tout de suite avec mon petit coup de cœur. Vous savez, c'est le moment que je réserve habituellement en fin d'émission. Et aujourd'hui, ben, c'est pas compliqué. Je vous parle d'un événement que j'aime beaucoup. C'est le défi sportif Altergo. Un événement qui est unique au monde et trop peu connu encore, je trouve. Ça se passe jusqu'au 29 avril. Ça a débuté ce lundi. J'y étais d'ailleurs ce lundi à l'ouverture de cet événement. Et c'était, comme à l'habitude, une ouverture extraordinaire, chargée d'émotions, de fierté, un véritable bonheur de voir ces jeunes athlètes arrivés avec toute leur fierté. Ils ont travaillé toute l'année à s'entraîner dans différentes disciplines et là, ils sont là pour compétitionner. On parle ici de 6700 athlètes qui vivent avec une limitation fonctionnelle, autant de l'élite et de la relève et qui viennent de partout à travers le Québec. Il y avait 900 jeunes lundi quand j'y étais et aujourd'hui, mercredi, l'organisation du défi sportif Altergo attendait 2000 participants. C'est un record. Les compétitions se passent du côté du centre sportif Claude Robillard et bien sûr, il y a plein de disciplines. Vous pouvez y assister, c'est gratuit. Vous pouvez même tester des sports adaptés si vous le souhaitez. Quelles sont les compétitions, les différents sports? Eh bien, c'est le boccia, le paracyclisme, le basketball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil, le curling, le hockey sur luge, la paranatation. Donc, vous voyez, c'est très diversifié, autant du point de vue des sports que des différents calibres également. C'est une occasion de voir le handicap d'une façon différente, de voir tout l'apport du sport dans une vie pour un enfant et pour une famille, parce que bien sûr, les parents souvent sont présents et on voit leur grande fierté de voir leur enfant s'épanouir de cette façon-là. Défi sportif Altergo du côté du centre sportif Claude Robillard. Vous pouvez y aller et ce jusqu'au 30 avril. C'est gratuit et je vous le recommande. All right, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entraîneur privé pour des personnes qui vivent en situation de handicap du côté du Pro Gym, également collaborateur de l'organisme Adama. On parle aujourd'hui de l'entraînement pour les personnes qui vivent en situation de handicap. Pourquoi vous avez eu envie ou cette sensibilité-là de côtoyer ou d'entraîner des jeunes qui vivent avec une situation qui vivent en situation de handicap? Vous m'entendiez, Paul Wright, je parlais de ce défi sportif Altergo. Probablement que vous connaissez bien cet événement.
Oui, je connais bien cet événement. pour répondre à la première question, la raison que je me suis impliqué, le désir, pourquoi c'est présent au Pro Gym, le 4500 Hochelaga sur le rue Hochelaga, le Pro Gym. On a pas beaucoup de jeunes, d'athlètes avec des handicaps.
Mm-hmm.
On n'a pas beaucoup d'athlètes qui ont des difficultés. Ici, quand j'ai commencé à remarquer qu'il y en avait un, c'était plus fort que moi.
Mm-hmm.
Je l'ai approché, j'ai offert mes services, puis j'ai beaucoup de patience. Puis quand on a la patience, puis on a un désir, puis ça fait au-dessus de 20 ans que j'entraîne les gens. Puis avoir une chance à travailler avec des gens qui n'ont pas de difficultés, ça donne un beau feeling de voir la personne améliorer. Quand on voit que la personne améliore avec son corps, tu l'aides avec la nutrition, fait qu'il améliore la manière qu'il mange, on améliore la qualité de vie de la personne. Mais la personne n'a pas de handicap.
Mm-hmm.
Mais ça donne quand même un feeling de satisfaction pour le coach. Mais imagine quelqu'un qui a déjà un handicap, quelqu'un qui a déjà une difficulté, qui réussit à lui montrer quoi faire, un exercice ou un entraînement, peu importe la consultation, même on parle d'entraînement. Quand on parle d'exercice ou quand on parle de boxe, des arts martiaux, quand on démontre un entraînement à quelqu'un qui a la difficulté, puis il commence à améliorer. Il commence à améliorer son estime en lui-même.
Ouais.
Améliore.
Et d'ailleurs, pour vous, Paul Wright, il n'y a pas de limite. Tous les sports peuvent être pratiqués avec un handicap ou pas, évidemment. Et vous allez même jusqu'à entraîner en ce moment un jeune homme qui vit avec une paralysie cérébrale à la boxe.
Oui. Oui, oui, oui. Puis là, vous voyez, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est le coach.
Oui.
Okay. C'est ça, c'est comme quand les enfants ils font des erreurs, ils ont le droit de faire des erreurs, mais c'est les parents, c'est la manière qu'on va prendre soin de nos enfants, quand on va les aider à encadrer, on prend soin, puis on est tout le temps là, on les check, on leur demande la discipline, on est là pour les discipliner. Fait que ça va bien, ça va tout à bien, ça grandit, il y a comme une flèche, une droite. Mais c'est la même affaire, je trouve, dans ma tête pour les jeunes qui ont des besoin d'adapter.
Mm-hmm.
Si on est là pour les aider, on leur donne 100%. Puis si on est fatigué, on ne donne pas de cours. Parce que si tu es fatigué, tu n'as pas de patience comme coach.
Oui.
Si ça va pas bien dans ta relation. Ça, quand on coach des gens normal, tu peux avoir des petits bobos dans ta tête. Puis tu as des mood swing up and down. L'élève, il va pardonner. Il va dire, mais c'est correct, mentalement, s'il ne file pas aujourd'hui, up and down avec l'attitude quand il me coach, c'est pas grave. Mais quand on coach un athlète qui a des caractéristiques importantes, comme on voit qu'il y a un handicap, il faut être tout là.
Oui.
Il faut que tu sois tout là à 100%.
Parce
que quand la personne sent que tu n'es pas là, il sent que tu es là, mais tu l'entraînes, mais tu regardes en arrière de lui. Tu l'entraînes, mais tu passes le téléphone. Tu l'entraînes, mais il sent que tu n'es pas là.
Oui.
Mais c'est sûr, il ne restera pas. Il serait pas motivé, puis tu n'auras pas d'amélioration dans son parchemin.
Paul Wright, quels sont les bienfaits que vous observez de façon très concrète auprès des jeunes qui vivent en situation de handicap que vous entraînez?
Répète ça encore, parce que je suis anglophone.
Quels sont les bienfaits que vous observez auprès de votre clientèle qui vit en situation de handicap?
Bon, même pas. Qu'est-ce que je remarque, c'est quand on ajuste la nutrition, puis quand on leur demande comment bien préparer le repas, parce que j'ai comme Francis Vallée, qui est en fauteuil roulant, il faut qu'il prépare ses repas lui-même.
Mm-hmm.
Fait en montant comment bien préparer les repas, ensuite on voit une amélioration dans le tout gras, on voit l'amélioration dans la force, la personne dort mieux, on voit une amélioration dans l'entraînement, partout. Mais ça, c'est avec la bouffe.
Mm-hmm.
Concernant l'entraînement, quand on commence à les entraîner, les gens, ça prend pas longtemps pour que le corps change. Il faut juste prendre le temps de démontrer la belle technique, un beau tempo, parce qu'on résiste. La respiration, c'est très important de montrer la respiration, puis de le faire sentir qu'il est capable de le faire.
Oui.
Mais moi, je vois plus loin. Je prends des photos. je vais bien plus loin, je fais des vidéos. J'essaie le plus possible d'utiliser toutes les ressources autour de moi pour motiver la personne.
Mais au-delà du physique, Paul, il y a aussi les bienfaits du point de vue psychologique.
Ah, oui,
les jeunes, ou peut-être moins jeunes que vous entraînez, ils vivent une fierté de pouvoir réaliser des choses. Et vous parliez aussi du corps qui se modifie, donc de voir que notre état de santé s'améliore.
Oui, je peux te poser une question? Est-ce que vous penserez que comment on dit encore, l'épilepsie, ça serait un handicap?
Je pourrais penser ça d'entrée de jeu.
Okay. J'en ai un que j'entraîne, un jeune. Puis, depuis que je l'entraîne, je ne mentionnerai pas le nom, mais cette jeune-là, à l'école, il y avait des problèmes, les jeunes qui l'agacent, les bullying, genre comme ça. Mm-hmm. C'est quand on ne comprend pas qu'on est jeune, puis on ne comprend pas pourquoi l'autre il agit comme ça, ou il est tout le temps fin, ou il est tout le temps d'une certaine façon, on va l'achaler, ou on va être amis avec. Ou on va l'achaler, puis on va le niaiser. Puis à l'école secondaire, il se fait niaiser beaucoup. Il se fait achaler, puis il se retrouve dans des situations qu'il n'aimera pas. Fait qu'il n'aime pas ça, il est à l'école, à cause de ça. Puis il y a des crises qui arrivent. Sa mère me l'a référé. Je le jure. Ça fait son troisième, quatrième rendez-vous. Une belle amélioration dans son caractère. Sa mère me l'a dit. Ça va mieux. Il y a une meilleure façon de voir les choses. Il est plus confortable dans son corps, la façon qu'il fait ses choses. Puis elle me l'a remarqué, elle me l'a dit. Elle dit, je vois une grosse amélioration à cause depuis qu'il a commencé à boxer. Imagine, il n'y avait pas de confiance en lui. Là, tu le montres à faire la technique de boxe. Là, tu le touches un peu, tu le frappes, tu le touches, tu le montres comment avoir la confiance. Puis ça, ça l'a aidé à l'école, avoir plus de confiance en lui.
Paul Wright, en terminant, je veux parler de votre implication au sein d'ADAMA, qui est une association de développement des arts martiaux adaptés, notamment qui interpelle des jeunes qui vivent avec l'autisme.
Oui.
Comment travaillez-vous avec cette clientèle qui est différente, parce qu'on ne parle pas d'une déficience qui est physique, mais d'un autre type de trouble avec l'autisme?
Exactement. Le premier exemple, en fin de semaine, ça va être le Open International Multisport d'arts martiaux adaptés. Ça, c'est le 29 avril pour ADAMA.
Mm-hmm.
Ça va être au complexe sportif Gadebois. Ça, c'est 5485 chemin de la côté à Saint-Paul. Ça va être, cette journée-là, ça commence à 1h, ça termine à 5h. Puis je vais être là.
Mm-hmm.
Je vais être présente pour donner un séminaire pour la boxe adaptée pour tout.
Mm-hmm.
Pas juste pour les fauteurs roulants, pour les autistes, pour les déficits mentaux. Ça va être un séminaire. C'est vraiment là que je vais vraiment prendre le temps de démontrer comment on peut faire ça, puis comment c'est facile.
Oui.
C'est juste le coach. Si le coach il veut, puis le coach prend le temps de regarder la façon qu'on peut adapter le plan pour la personne en question, il n'y a pas de problème.
Oui.
Si le coach regarde l'athlète, puis il dit, bon, je ne peux pas travailler avec lui parce que il y a une faute. Non, parce qu'il est aveugle. J'ai un monsieur qui travaille avec moi, qui est associé avec moi. Il s'appelle Assini. Puis Ashley Calif, c'est un ceinture noire en judo, c'est un professionnel en judo, c'est même un maître. Lui, il coach un monsieur qui s'appelle Yves dans la boxe adaptée, puis Yves, il est aveugle à 100%. Une journée, je t'enverrai une vidéo de ça. L'entraînement qu'ils font avec une mitaine, je te jure.
Mais j'apprécierais beaucoup. Et à vous écouter, Paul Wright, on se rend compte que c'est beaucoup dans nos perceptions à nous.
Oui.
Et c'est
absolument.
Nous qui mettons parfois un handicap à des personnes qui sont capables de faire beaucoup de choses. Et c'est nous-mêmes qui leur mettons ces obstacles-là. Et vous leur permettez d'avoir un mode de vie actif, de s'entraîner et d'être davantage en santé. Paul Wright, vous êtes entraîneur privé du côté du Centre Pro Gym et également collaborateur de l'organisme ADAMA, Association de développement des arts martiaux adaptés. On peut d'ailleurs vous rencontrer le 29 avril. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout.
Au revoir.
Merci, au revoir.
C'est la semaine de l'action bénévole et ce jusqu'au 29 avril. Et on vous pose cette question dans le cadre de cette semaine. Le bénévolat peut-il être une source de bien-être et de longévité? On en discute d'ailleurs à l'instant avec André Ledoux. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la santé et la vieillesse, notamment Vivez mieux, vivez plus vieux. Également, il détient un certificat en gérontologie, conférencier et lui-même bénévole. André Ledoux, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes à même de constater que le bénévolat, André Ledoux, peut faire du bien parce que vous-même, vous êtes bénévole dans plusieurs établissements de santé.
Oui, effectivement, je suis bénévole d'abord à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et de même qu'à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Mm-hmm. Et enfin, à l'Observatoire vieillissement et société. Enfin, ça fait presque une quinzaine d'années que je fais... d'une façon très régulière du bénévolat.
Oui. Et vous êtes à même d'avoir pu observer les bienfaits du bénévolat pour certaines personnes, André Ledoux?
Oui, tout à fait. Le bénévolat, finalement, rapporte beaucoup à ses adeptes. Ça influence la santé, ça influence également par ricochet la longévité. Alors, ce qui arrive, c'est que ça nous permet de découvrir de nouveaux intérêts et c'est un très agréable passe-temps. Les secteurs du bénévolat sont immenses. Ça peut être le secteur des sports, ça peut être le secteur des soins de santé, différents domaines sociaux. Et ça permet évidemment d'accroître la motivation des personnes et surtout leur sentiment d'accomplissement. On a l'impression de rendre service, de faire quelque chose pour les autres. Et comme ricochet, ça renforce l'estime de soi et la confiance en soi.
André Ledoux, vous parliez de la découverte de nouveaux intérêts qui peut être très valorisant, très stimulant pour une personne qui entame une implication de bénévolat. Il y a aussi la rencontre avec de nouvelles personnes.
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est certain que ça favorise beaucoup les relations humaines. Et dans certains cas, on peut même se faire des amis grâce au bénévolat. Et l'action bénévole, finalement, améliore les aptitudes sociales et les aptitudes de communication. Alors, c'est certain que c'est vraiment un secteur qui peut améliorer, finalement, la qualité de la vie.
Oui. Mais est-ce qu'il y a des études, André, sur la longévité réelle que peut amener le bénévolat chez une personne plus âgée?
Oui, tout à fait. Ça a été prouvé que les bénévoles, en général, vivent beaucoup plus longtemps. D'abord, on remarque que d'après les recherches, que l'action bénévole réduit le taux de dépression. Ça diminue également la fréquence des maladies cardiaques. Ça facilite la gestion du stress et de l'anxiété. Ça peut abaisser la tension artérielle et finalement, ça favorise le sentiment de bien-être et ça accroît la satisfaction globale vis-à-vis de la vie. Oui. Mais pour répondre plus précisément à votre question, c'est à savoir s'il y a des statistiques. Oui, on a fait, par exemple, des recherches aux États-Unis, également en France. Par exemple, il y a des recherches de l'Université du Michigan qui ont démontré que les sujets âgés qui s'adonnent à l'action bénévole vivent pendant 7 ans de plus que la moyenne des gens. Mm-hmm. Et ça a baissé leur taux de mortalité de 67%.
Wow!
Oui, non, c'est vraiment...
assez signifiant.
Oui, oui. Et il y a également une autre analyse de l'Université d'Exeter en Angleterre qui montre que le bénévolat diminuerait d'environ 20 % le risque de mortalité. Vous voyez qu'il y a toujours, évidemment, les chiffres varient, mais il reste que, il en demeure pour moins que c'est... Ça montre que les bénévoles, en général, vivent plus longtemps. Mm-hmm. On dit aussi, il y a une recherche qui a été faite en France par la docteure Françoise, la gériatre Françoise Forette, qui a d'ailleurs publié l'ouvrage « J'ai choisi de bien vieillir ». Et dans son ouvrage, justement, elle parle des bienfaits du bénévolat sur la santé. Alors, elle dit que globalement, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Hollande ou encore en France, les recherches, les données prouvent que les bénévoles affichent un taux de mortalité plus bas, un taux de dépression moins élevé en avançant en âge que ceux qui ne pratiquent pas de bénévolat. Mm-hmm. Enfin, on pourrait expliquer le phénomène par le fait que le bénévole sort de lui-même, pense aux autres et cesse de se regarder puis d'essayer d'examiner s'il n'y a pas des petits problèmes de santé ou de... Bon, alors, en pensant aux autres, en se dévouant pour les autres, on s'oublie soi-même et dans certains cas, ça peut être très heureux.
Oui. Donc, on le constate, des impacts positifs du point de vue de la santé physique et psychologique. Il y a aussi des impacts positifs du point de vue économique.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qui est évidemment très, très remarquable dans notre société où, justement, l'argent est une valeur première. Alors, d'abord, en 2010, d'après les données de 2010, au Canada, il y a 13 millions de personnes, c'est-à-dire 47 % des Canadiens de 15 ans et plus, qui se sont adonnés au bénévolat. Alors, ils ont consacré, en fait, 2 milliards d'heures au bénévolat, et à 10 $ l'heure, ça fait la somme de 21 milliards de dollars pour le Canada en 2010. Alors, vous voyez, les bénévoles ont rapporté au pays plus de 20 milliards de dollars en 2010, et ça, c'est les statistiques de 2010, mais il faut dire que ça a continué en 2011 et ainsi de suite. Au Québec, les données sont aussi très, très remarquables. Il y a 2 millions de personnes qui fournissent à peu près 400 000 heures de bénévoles dans toutes les régions de la province. Ça représente 4 millions de dollars par année. Et il y a 37 % de la population qui font de l'action bénévole. Et d'une façon plus précise, à l'endroit où je fais régulièrement du bénévole, à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, nous avons 120 bénévoles qui donnent annuellement près de 30 000 heures de bénévolat. Ça fait une équivalence de 300 000 $.
Oui.
Alors, c'est quand même, c'est vraiment un impact économique de grande importance. Et on peut vraiment se poser la question, s'il n'y avait pas l'action bénévole, que serait la société?
Oui, voilà, le bénévolat devient un pilier de société, c'est ce qu'on entend, André Ledoux.
C'est ça, oui, oui, tout à fait. C'est un pilier, un levier de la société que malheureusement, on oublie souvent. Et ça, encore une fois, je l'ai mentionné au début, c'est dans la plupart des secteurs d'activité. Hein. Ça peut être aussi en politique. C'est sûr que la politique de ces temps-ci n'est pas très, très populaire, mais il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat dans le secteur politique. D'ailleurs, j'en ai fait à l'époque. Et enfin, que ce soit, encore une fois, dans les services sociaux, dans le domaine du sport ou encore en politique, dans les bibliothèques, dans les caisses populaires, il y a des bénévoles partout. Et souvent, ces gens-là travaillent dans l'ombre. Mais ils font un travail absolument indispensable.
Oui. En terminant, André Ledoux, c'est la semaine de l'action bénévole et ce jusqu'au 29 avril.
Oui.
Si vous aviez un message à donner aux gens qui nous écoutent, qui hésitent peut-être à s'impliquer dans le bénévolat, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour tenter de les convaincre?
Ben, écoutez, c'est que tout le monde peut faire du bénévolat. Ça peut être minime, mais écoutez, on peut faire une heure, une demi-heure de bénévolat par semaine, quel que soit l'endroit où on se trouve. Par exemple, il y a beaucoup de gens de certains âges qui sont en résidence actuellement. C'est possible dans les résidents d'aider les autres. On peut faire un bénévolat individuel. Il y a des gens qui, par exemple, dans les résidences, ont des problèmes de locomotion. Mais pourquoi pas leur aider à un moment donné, hein, leur offrir de faire une promenade une fois par semaine d'une demi-heure pour les soutenir, leur aider dans leurs problèmes de locomotion. Alors, c'est possible de faire du bénévolat et ça rend service et surtout, ça a des retombées très positives pour la personne qui s'adonne à l'action bénévole.
Et on parle à quelqu'un qui connaît ça. Vous êtes vous-même, André Ledoux, bénévole dans plusieurs établissements de santé. Vous détenez un certificat en gérontologie également. Vous êtes auteur de plusieurs livres. Votre dernier livre s'appelle « Vivre et vieillir heureux ». André Ledoux, ça a été un plaisir de vous parler. Bonne semaine de l'action bénévole à vous.
Je vous remercie, madame.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. Merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Je vous invite à visiter notre site pour en savoir davantage. On mettra tous les liens. Marie Lalonde nous a donné plein de ressources. Elles seront là, ces ressources-là. Marc Corbière également, son site. Allez le consulter pour compléter vos informations. canalm.vuesetvoix.com. Vous pouvez également me joindre au 1-800-361-0635, c'est le poste 220 par Twitter, par Facebook également. Merci à Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console, c'est Christiane Campagna aux médias sociaux et à la revue de presse. Marianne Paquette au micro. Bye-bye, à la semaine prochaine.